Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Le concept de médecine traditionnelle chinoise est souvent associé à l'acupuncture et à des pratiques ancestrales qui auraient été transmises sans interruption depuis la nuit des temps. Pourtant, cette idée d'une médecine traditionnelle millénaire est une invention qui date du XXe siècle et qui répond à des enjeux peut-être plus politiques et culturels que scientifiques. Science Chrono tente aujourd'hui de comprendre pourquoi l'idée d'une médecine traditionnelle chinoise ne rend pas compte du caractère hétéroclite de l'histoire médicale en Chine et encore moins de ses nombreuses évolutions. Bonjour Florence Bretel-Establet.
Bonjour, vous êtes Antoine Beauchamp.
Vous êtes sinologue spécialisée dans l'histoire de la médecine et des sciences. Vous êtes directrice de recherche CNRS rattachée au laboratoire Sphère pour sciences, philosophie, histoire de l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous parler de cette idée d'une médecine traditionnelle chinoise qui n'aurait connu ni rupture ni changement depuis des millénaires. Idée qui, bien sûr, on va en parler, ne rend pas compte de la longue histoire médicale chinoise. Avant d'aller du côté de l'Empire du Milieu, il me faut vous annoncer également le programme de la deuxième partie de notre émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons du côté de Coran, en Auvergne. Des fouilles réalisées cet été 2024 sur ce site gaulois ont mis au jour un atelier monétaire entier. C'est une première en Europe et on verra que cette découverte nous ouvre des pistes passionnantes pour comprendre la vie du peuple arverne, peu de temps avant la guerre des Gaules. Mais tout de suite, on revient à notre histoire des sciences, pardon. Aujourd'hui, tournée vers la médecine en Chine. Et pour notre archive du jour, on vous propose une petite expérimentation. Florence Bretel-Establet, vous nous avez proposé de traduire quelques extraits de textes écrits par des médecins chinois du 19e siècle et de les faire se rencontrer dans une situation pour le coup, elle, fictive. Ça donne cette archive recomposée et la lecture vous est faite, comme d'habitude, par Laurent Blanpin.
Après avoir flâné dans les librairies de Canton, Wang Sui-yuan et Pan Ming-xiang se retrouvent le 15 octobre 1840 au Temple des Cinq Génies. Comme tous les 15 du mois, ils aiment s'y retrouver avec d'autres pour discuter médecine et expérience personnelle. Wang explique son projet d'écrire un livre sur les maladies de chaleur caniculaire. « J'ai observé que les médecins font beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agit de maladies de chaleur caniculaire. » C'est parce que les anciens ont négligé ces maladies et se sont davantage intéressés aux maladies froides. Pan lui demande un exemple de ce type de maladie et d'erreur. Wang ouvre le cahier dans lequel il consigne sa clinique et lit ce qu'il a noté dans un style lapidaire. Monsieur Zhang, frisson et fièvre, poitrine encombrée, langue jaune, pointe violette. Il a très soif, mais il ne boit pas. Son pouls est enfoui et faible. Cette maladie est provoquée par ce pathogène qu'est la chaleur caniculaire. À tort, un médecin lui a administré une poudre réchauffante pour tonifier. Ceci a endommagé les liquides corporels. J'ai donc proposé de nourrir le yin de l'estomac à l'aide de substances qui rafraîchissent et dispersent. Wang énumère une dizaine de substances qui, en trois décoctions, guérissent le malade. Pan salue la perspicacité de son ami. À son tour, il présente l'histoire de son patient Zhang, qui lui a donné bien du fil à retordre. Zhang, âgé de plus de 70 ans, a attrapé l'urine de pierre. L'urine coule goutte à goutte. Douleur terrible. Bas-ventre gonflé. Il halète, mais peut manger. Des médecins ont utilisé la méthode qui rafraîchit et fait s'écouler, sans succès. On est alors venu me chercher. Pan prescrit des comprimés associés à une décoction, mêlant plusieurs substances animales et végétales. Les urines de Zhang coulent abondamment, éjectant plusieurs cailloux de la taille de pépins de mandarine. Wang s'apprête à lui poser une question lorsqu'un ami les rejoint. C'est Chen Rongtang, ce féru des textes de l'Antiquité et fervent défenseur des théories de Zhang Zhongding. Chen a la mine sombre, et à peine assis, il livre sa vision pessimiste de la médecine de son temps. Depuis que Tao Dieyan a dit que les formules de Zhang Zhongding étaient dangereuses et difficiles à utiliser, les gens considèrent que ces formules ne sont pas fiables. Cette affirmation a conduit à abandonner l'étude des principes de Zhang. C'est pourquoi la médecine décline tous les jours. Je le dis et le redis. Tao Dieyan a perdu l'occasion de se taire, et les étudiants doivent savoir que son livre est outrancier. Que dire maintenant de Zhang Diebin, lui qui dit que les hommes d'aujourd'hui ont des maladies de déficience 8 à 9 fois sur 10 et prescrit inconsidérément des formules tonifiantes. Je ne sais pas pourquoi Zhang Yebin voit les hommes d'aujourd'hui comme majoritairement déficients. Je crains fort que cette affirmation ne repose sur des faits réels.
Voilà pour cette archive recomposée. Merci beaucoup à vous, Florence Bretel-Establet, d'avoir bûché et d'avoir rassemblé ces textes de trois médecins contemporains, trois médecins qui, a priori, ne se sont pas rencontrés vraiment, ou en tout cas qui n'avaient pas ce type d'interaction dont on entendait parler dans l'archive. Pourquoi est-ce que, en premier lieu, vous avez choisi ces trois figures-là de médecins? Qu'est-ce qu'ils représentent?
Alors, tout d'abord, quand vous m'avez parlé d'une archive, effectivement, je me suis dit, s'il faut commencer à parler d'histoire de la médecine en Chine, ce serait bien d'abord de donner la parole à quelques-uns de ces acteurs. Donc, j'ai choisi ces Wang Xuyuan, Pan Mingxiong et Chen Huantang, qui sont des médecins ordinaires, on va dire, qui exercent la médecine dans la province du Guangdong, donc dans le sud de la Chine. Deux d'entre eux habitent même la ville de Canton, donc effectivement le dialogue est fictif, mais les extraits, les propos qui sont rapportés sont des vrais extraits de leurs ouvrages, et les informations contextuelles aussi sont tirées de leurs ouvrages et des biographies qu'on a à leur sujet. Donc ils se sont pas rencontrés, ça c'est mon imaginaire, mais ils auraient pu puisqu'ils étaient vraiment contemporains. Leurs livres ont été publiés entre 1838 et 1860. Ils habitent dans un même endroit. Alors, pourquoi j'ai choisi ces textes? Alors voilà, c'est des médecins ordinaires, parce que quand on fait l'histoire de la médecine, on peut faire l'histoire des grands textes, l'histoire des grands hommes, mais on sait aussi que l'histoire de la médecine, c'est aussi l'histoire des médecins, l'histoire des patients, l'histoire des gens plus ordinaires, et ceux-là font partie, même si ils sont pas si ordinaires que cela, puisqu'ils ont publié des livres, donc ils appartenaient certainement à une élite locale qui les a aidés à publier en faisant des préfaces, bon... Si j'ai choisi ces extraits plutôt, donc c'est les deux premiers, c'est des récits de cas cliniques, et pour l'historien de la médecine, c'est des types de documents qui sont particulièrement appréciables, parce que c'est la seule manière qu'on peut avoir de se figurer ce que pouvait être une rencontre clinique entre un médecin, son patient, parfois sa famille, comment ce médecin réagit, etc. Donc, les deux premiers, c'est des récits de cas cliniques qui ont été écourtés. Et puis, le troisième, c'est un traité un peu plus général,
critique.
J'expose, voilà, et qui est vraiment... l'extrait que j'ai donné est très poli, et c'est un texte qui vraiment frise l'injure quasiment tout au long des pages. Alors, ces cas cliniques, enfin ces extraits, me permettaient d'illustrer trois traits que je voudrais signaler. C'est d'une part, comme on l'entend dans ces extraits, la catégorie médecine chinoise et encore ou la catégorie médecine traditionnelle chinoise n'existe pas au XIXe siècle, ni avant. Ces hommes qui pratiquent la médecine et qu'on voit comme ça dans ces extraits, ils utilisent quelque chose qu'ils identifient comme une médecine, et on vient les chercher pour soigner des problèmes qui sont souvent très graves, qui certainement les gens n'ont pas réussi à s'auto-soigner, et donc ils viennent consulter un médecin.
Quels sont les grands principes finalement qui les relient, la doctrine médicale finalement qu'ils suivent tous les trois? Qu'est-ce qui les rassemble autour de ces diagnostics finalement? Alors, quelle traduction on peut faire?
Bon, dans les deux cas cliniques, on voit bien qu'il y a quand même même si c'est un cas clinique qui pourrait être plus observation empirique, on sent bien qu'il y a derrière un modèle théorique de ce qu'on appelle la médecine des correspondances systématiques, dont je parlerai peut-être un peu plus tard, le yin, le yang, etc., où le corps fonctionne avec ce paradigme explicatif de changement, de transformation qui est un paradigme qui s'est forgé à peu près au 3e siècle avant notre ère et qui a été très utilisé dans des tas de domaines différents. Mais le deuxième trait que je voulais qu'illustre aussi ces documents, c'est aussi que ces médecins qui parlent, on voit bien, parlent bien d'une médecine qui est tout sauf consensuelle. On a les médecins ceux qui se sont trompés, qui ont donc dans les cas cliniques, on voit, ils ont mal observé, ou bien ils ont mal interprété ce qu'ils observaient parce qu'ils ont utilisé des cadres théoriques partisans. ou alors ils ont même mal donné ils ont donné de mauvaises prescriptions thérapeutiques. Hein. Donc on n'a pas un ensemble consensuel. Et le troisième trait que je voulais signaler, hein, que je voulais montrer et que ces extraits illustrent, c'est que la médecine en Chine n'est pas réductible à l'acupuncture, et donc ça me permet de répondre à votre question aussi. Vous voyez là, dans ces deux cas cliniques, ce n'est absolument pas l'acupuncture qui est mobilisée, mais une pharmacopée très riche. Pour la raison simple, c'est que l'acupuncture, au deuxième millénaire, est vraiment devenue une pratique thérapeutique de second rang. Alors que le remède, qui existait avant, mais qui était resté un peu plutôt dans des milieux un peu différents de ceux qui pratiquaient la médecine des correspondances systématiques, le remède, complètement réinterprété entre le XIe et le XIVe siècle, va gagner en noblesse et du coup va être très largement utilisé dans la médecine qui se pratique en Chine.
Il y a quelque chose aussi, Florence Bretel-Establet, qu'il faut mentionner, c'est qu'on est au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un siècle capital pour comprendre aussi les changements qui marquent la Chine, notamment l'ouverture de cette Chine aux pays occidentaux. Et ça va aussi à l'ouverture à une autre tradition médicale, pour reprendre ce terme de tradition, en tout cas de pratique médicale occidentale. Comment se passe cette rencontre entre deux cultures médicales au XIXe siècle ?
Alors, ce qu'on peut voir au XIXe siècle, c'est que, alors en plus, la province du Guangdong, sur laquelle je travaille particulièrement, c'est un peu mon terrain d'étude, c'est une province qui, effectivement, dès le début, a accueilli des établissements de missionnaires, mais aussi des établissements de médecine français qui étaient, eux, dirigés par des médecins militaires. Alors, tout au long du XIXe siècle, on peut dire qu'il y a une sorte
de coexistence
pacifique. Je suis même pas sûre que les médecins chinois voyaient forcément la médecine pratiquée dans les hôpitaux missionnaires religieux, faut pas l'oublier quand même, comme étant forcément différente de la leur. Les choses vont radicalement changer, bien sûr, au début du XXe siècle, hein, quand la médecine rencontre l'État. C'est une expression qui a été utilisée par l'historien taïwanais Lei Xianglin, où les autorités politiques, républicaines d'abord, après la chute de l'Empire en 1911, et puis les autorités nationalistes avec le Kuomintang, vont essayer quand même de faire un petit peu du ménage dans le paysage médical chinois, où on a effectivement donc des médecins formés à la médecine scientifique français, militaire, passés par les plus grandes écoles de médecine tropicale, mais on a aussi des missionnaires qui pratiquent la médecine. Et puis à côté donc de tous ces gens-là qui pratiquent une médecine dite occidentale, mais donc qui est très très diverse, faut pas penser que c'est qu'une seule chose. Eh bien, il y a aussi tout un ensemble de soignants qui se proclament médecins, mais qui pourtant n'ont aucun diplôme, ne sont passés par aucune institution. Et là, le gouvernement va se dire, que fait-on de tout ça ?
Alors ça passe par quelle stratégie d'élimination finalement, voilà, de toute une culture médicale qui précède cette rencontre avec la culture médicale occidentale ?
Alors c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que on peut dire que les élites politiques, à la fois impériales, républicaines, nationalistes, aimeraient bien ne garder que la médecine scientifique, mais ils sont bien conscients qu'ils sont là, qui sont un peu coincés entre, d'une part, la volonté de sauver la nation et en même temps de risquer d'être accusés de trahison d'identité nationale.
C'est très impopulaire finalement aussi de faire passer cette séparation avec la médecine pratiquée jusqu'alors pour la remplacer de façon un peu brutale par une autre culture médicale.
Alors c'est très impopulaire, d'autant qu'en 1929, le ministre de la Santé, donc Yuen, qui s'est formé à la médecine scientifique au Japon, décide purement et simplement d'abolir la médecine chinoise. Cette décision suscite une grande résistance dans la population, mais aussi au sein des élites politiques, parce que toutes ne sont pas d'accord. Et dans cette forme de résistance, les acteurs eux-mêmes sont bien conscients qu'il y a des enjeux, pas seulement de santé publique, on va dire, mais aussi des enjeux politiques. Mmh. Et on retrouve dans les années 20, dans les années 30, jusque dans les années 40, ne serait-ce qu'un problème sur comment on va qualifier ces médecines. Hein, comme je vous l'ai dit, au 19e siècle, la médecine, c'est la médecine,
on ne parle pas de médecine chinoise,
elle n'est pas essentialisée à la Chine.
C'est ça.
Alors, les médecins qui sont chinois mais formés à la médecine scientifique vont dire, on n'a qu'à appeler la médecine scientifique la nouvelle médecine, et la médecine qui se pratique en Chine depuis la nuit des temps, la vieille médecine. Bon, bien entendu, les praticiens de médecine chinoise n'en vont pas être tout à fait satisfaits du qualificatif.
Des vieux médecins.
Voilà. Et vont utiliser un autre outil très symbolique. Ils vont dire, non, vous êtes la médecine occidentale, et nous sommes la médecine nationale, Guoyi. Mais à ce moment-là, les médecins qui sont formés à la médecine scientifique nous disent non, parce que nous travaillons au moins autant, certainement plus que vous, à sauver la nation, et notre médecine est tout à fait en faveur de la nation. Bref, il y a tout un conflit dans les années 20-30 sur quel nom donner à cette médecine, et c'est vraiment...
Et aussi de quoi se débarrasser quand on se débarrasse de cette médecine,
voilà.
Parce que là, on parle des nationalistes, mais quand Mao arrive au pouvoir en 1949, lui aussi, cette vieille médecine, il veut s'en débarrasser. C'est pas pour d'autres raisons, parce qu'elle est affiliée d'une certaine façon à des pratiques religieuses, à une spiritualité qui ne sont pas compatibles avec la pensée communiste.
Oui, alors par exemple, avant les communistes, donc ce fameux Yuyen, en plus de sa proposition, dit d'accord, on l'abolit pas, on va créer un institut de médecine nationale, c'est bien le terme national qui est utilisé, mais il va falloir faire de l'ordre, il va falloir mettre en ordre tout ça, parce que comme je l'ai pas dit, mais effectivement, entre le 7e siècle et le 20e siècle, il y a bien une institution médicale impériale à la cour. Mais cette institution n'a jamais eu pour tâche de réguler la pratique médicale, et donc jusqu'à la fin du 19e siècle, on se formait à la médecine au sein d'une famille, on se formait à la médecine auprès de maîtres, on se formait à la médecine auprès en lisant des livres, on pratiquait la médecine en occupation exclusive comme un métier, mais aussi on pouvait pratiquer la médecine à 16 heures pour soigner ses enfants, ou alors même la médecine était juste un champ de réflexion intellectuelle. Alors Yuyen, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, pas compliqué, on va mettre de l'ordre, on pourrait par exemple supprimer toutes les théories qui sont proprement indéfendable aux yeux de la science, le yin, le yang, le qi, tout ça, c'est absolument pas, on peut pas en faire la preuve. Donc on supprime, et par contre on va garder l'expérience, c'est-à-dire les recettes, ça c'est Yuyen. La période nationaliste va être trop courte, vous savez, la Chine entre en guerre contre le Japon en 1938, et finalement la question de que faire de cette médecine va être laissée en plan, et c'est le régime communiste qui lui va devoir régler l'affaire de façon définitive, et lui va le faire dans un objectif très différent. L'objectif de Mao, quand il arrive au pouvoir, donc dans un contexte politique qui va être plus stable, il va le faire, il va reprendre tous les débats qui ont été eu cours, et vont dire, mais il faut, dès le début, l'objectif de Mao sera de faire collaborer, d'intégrer
d'une certaine façon,
voilà,
les deux
médecines. C'est vraiment l'objectif qui est formulé même avant son arrivée au pouvoir. Et c'est vraiment l'objectif premier de Mao, c'est donc unifié. Oui, mais alors là, quand on unifie ces deux médecines, le problème
se pose.
Qu'est-ce
qui se rencontre? Alors moi, on parlait de médecine traditionnelle chinoise. Ce qui est intéressant, c'est quand on ouvre aujourd'hui Google, on tape médecine traditionnelle chinoise, un site sur un, on va dire, ou un site sur un et demi, dit toujours la même chose, médecine millénaire, ancestrale, etc. Médecine traditionnelle chinoise, c'est un terme, une expression qui est littéralement inventée en 1955. Alors, est-ce qu'on sait par qui ou à quelle occasion, pourquoi on va inventer ce concept-là de médecine traditionnelle chinoise au XXe siècle?
Bah oui, c'est quelque chose qu'a très bien étudié Kim Taylor dans différentes publications. On veut unifier pour faire une médecine mondiale qui serait potentiellement supérieur à la médecine scientifique. Ce sont des objectifs qui sont exprimés en 1960 par Mao. Donc, il va falloir unir. Mais voilà, il va falloir unir, mais il va falloir faire le ménage. Et c'est entre 1956 et 1960, le gouvernement chinois va s'atteler à définir ce que c'est que cette médecine chinoise, parce que maintenant, en Chine, elle s'appelle médecine chinoise Zhongyi, et elle est restée comme ça. Donc on va créer une académie de médecine chinoise, et il va y avoir un petit collectif de médecins, comptant des médecins formés aux sciences, des médecins non formés aux sciences, qui vont se mettre autour de la table et qui vont dire, bon alors, qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise ? Ils vont, alors bien sûr, on va la construire, pas à partir de rien, en prenant des textes classiques de l'Antiquité, mais on va trier, hein, c'est-à-dire qu'on va conserver ce qui est quand même encore acceptable pour un esprit scientifique de 1950, ce qui est compréhensible. On va faire des manuels. Le premier manuel paraît en 1958. Ces manuels, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir avant tout à former les médecins chinois qui ont été éduqués dans les universités de médecine scientifique à une médecine chinoise pour qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils puissent l'utiliser.
S'adresser à tout le monde aussi, à tous les patients qui viennent les voir.
Voilà, pour le projet n'est pas encore pour faire quelque chose de collaboratif et dans un deuxième temps, pour former à l'avenir tous les médecins de médecine chinoise dans les universités avec enfin un texte homogène, standardisé, qui va être enseigné dans toutes les universités chinoises. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc cette médecine qui est en construction, hein, c'est une reconstruction, pas à partir de rien, mais on trie.
Oui, c'est ça.
C'est d'ailleurs le même processus qui s'est passé dans les années 90 pour faire ce qu'on appelle les médecines de minorité ethnique. On prend, on trie, on systématise, éventuellement on passe sous la science pour essayer quand même de donner quelques preuves scientifiques et on dit ce que c'est que cette médecine, par exemple, des minorités ethniques. C'est le même processus, le premier a bien marché, donc ça a été appliqué 20 ans ou 30 ans plus tard après. Et ironie d'histoire, c'est que cette médecine qui est donc construite, qui aurait pu s'appeler nouvelle médecine, par exemple, ou médecine chinoise scientifique, eh bien, pour l'étranger, elle va prendre le nom de médecine traditionnelle chinoise. Dans les publications qui sont dans les journaux chinois, qui sont traduits en anglais, les Chinois n'utilisent pas du tout ce terme-là. Hein. Les Chinois qui travaillent sur l'histoire de la médecine font ce qu'ils font en général, c'est-à-dire qu'ils parlent d'une médecine et ils découpent en chronologie la médecine des Sui, la médecine des Tang. Mais là, pour l'étranger, ça va être la médecine traditionnelle chinoise.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça, ce fait que le terme traditionnel pour une médecine nouvelle ait la peau aussi dure chez nous en Occident et avec tout ce que ça véhicule, en plus d'images d'épinal, de clichés, etc., sur ce côté très figé dans le temps?
Et oui, c'est parce qu'il y a eu un gros malentendu, en fait. C'est que ce terme de médecine traditionnelle chinoise, il est là quand l'Europe, les États-Unis redécouvrent la médecine chinoise, hein, avec la Nixon en 1970, dont un de ses collaborateurs doit subir une appendicectomie sous acupuncture, qui va donc véhiculer, enfin écrire pas mal de choses dans la presse américaine. L'Europe, les États-Unis sont intéressés, ils cherchent à savoir ce que c'est, etc. Et ils ne vont pas comprendre que ce qu'on leur montre comme étant la médecine chinoise qui est pratiquée donc dans les hôpitaux en 1960-1970, en réalité, c'est une construction moderne. Mais on va leur dire, les quelques observateurs européens dans les années 80 qui vont écrire des livres pour le public européen pour dire voilà ce que c'est la médecine chinoise, eux-mêmes ne vont pas forcément bien comprendre que les sources qu'ils ont dans leurs mains pour leur expliquer ce que c'est le manuel de 1958. Donc ça a créé un malentendu qui a fini par provoquer cette espèce d'imaginaire où la médecine traditionnelle chinoise serait cette médecine qui existe depuis l'éternité, qui s'est transmise de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, sans aucun changement, et qui est arrivée intacte à nos jours. Et vous avez tout à fait raison, c'est souvent comme ça que c'est présenté sur les sites, dans la vulgarisation.
Disons. Alors Florence Bretel-Establel, vous parlez des sources, c'est hyper important quand on fait de l'histoire. Là aussi, justement, c'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle histoire de la médecine en Chine peut-on faire et à partir de quel corpus. Et je crois que le corpus, il est pas mince, c'est vaste.
Et oui. Voilà, donc la médecine traditionnelle chinoise, effectivement, elle parle bien de la médecine de l'Antiquité, parce que c'est vrai que aux alentours du 3e, on a encore beaucoup de mal à dater. Il y a un texte qui vraiment fait une rupture avec les cultures antérieures de la santé, qui se compilent entre le 2e siècle avant notre ère. Bon. Mais est-ce que la médecine chinoise qui se pratique aujourd'hui, c'est celle-là? Non, vous avez parlé des sources. Entre cette époque des Han, donc 3e siècle avant notre ère, 3e siècle après, et aujourd'hui, on a énormément de sources. Il y a eu un inventaire qui a été fait dans les années 90 de 113 grandes bibliothèques chinoises et qui a recensé dans ces 113 bibliothèques chinoises plus de 12 000 titres d'ouvrages médicaux. Et ces 12 000 n'incluent pas les rééditions. Certains de ces titres ont été réédités des centaines de fois. Or, on sait bien que le livre médical, en Chine, comme souvent ailleurs dans les périodes prémodernes, c'est quelque chose de vivant.
Ça fait objet d'interprétation.
Ça fait l'objet d'interprétation. Et la personne qui le réédite va insérer ses propres commentaires, ses propres recettes, etc. Donc, c'est souvent des nouveaux livres.
Ouais.
Ce qui veut dire que c'est pas 12 000 objets qu'on a dans les mains à lire. Et j'ajouterai en plus que ces livres qui ont été préservés dans les bibliothèques chinoises, ce n'est qu'une infime partie de ce qui a été produit. Pour avoir, moi, essayé de chercher, par exemple, ce que représentaient les textes qui ont survécu du Guangdong, du Guangxi, du Guangdong et du Yunnan, de ce qui était produit entre le XVIIe et le XXe siècle, je suis arrivée à peu près 13%. Donc, il y a beaucoup de sources, énormément de sources. Et ça inspire un peu deux remarques. La première, c'est que quand même, dans ces 12 000 titres, il y a bien certainement, les auteurs n'ont peut-être pas fait que recopier et recopier à l'infini les textes de l'Antiquité. Il y a peut-être quand même des propositions nouvelles. Mais ce que ça aussi induit comme remarque, c'est ça impose une certaine prudence et une certaine humilité quand on veut... pour essayer de comprendre ce qu'a été la médecine en Chine, dans son étendue historique, mais aussi dans son étendue géographique, et aussi dans sa complexité sociale, puisque je l'ai dit avant, on peut être médecin dans différents types de milieux. Et donc voilà.
Et ça, c'est votre travail de recherche.
Voilà.
Alors, quelles sont les prochaines étapes de ce travail pour y voir clair dans cette montagne de sources?
Oui, alors quand même, depuis les années 80, beaucoup d'historiens ont travaillé. Ils ont retroussé leurs manches en Chine comme ailleurs et ils ont exploré les textes, les textes médicaux. Et on peut dresser quand même quelques tendances dans l'histoire. On a pu mettre en évidence, par exemple, des évolutions théoriques, thérapeutiques dans l'histoire. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que avant que la médecine en Chine soit institutionnalisée, la médecine, c'est comme partout ailleurs, un ensemble dynamique, dont les limites même n'ont cessé d'évoluer. C'est-à-dire que ce qui, à certaines époques, était considéré comme faisant partie de la médecine, je pense aux incantations, à l'acupuncture aussi, sont à d'autres époques relégués dans le hors médical et inversement. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la médecine en Chine, c'est un ensemble de théories, de pratiques, qui est à la confluence des hommes, du politique, des maladies, de la culture. Pour dire en d'autres termes, ce sont des hommes qui ont, et des femmes qui ont leurs pieds et leur tête dans leur temps, et qui, ces temps-là, sont bien sûr différents, et les discussions médicales évoluent également.
Merci beaucoup à vous, Florence Bretel-Establet, d'être venue nous aider à décortiquer la naissance de cette médecine traditionnelle chinoise. On tourne ensemble la première page de Science Chrono et on passe après cette histoire des sciences au deuxième temps de notre émission. Il est l'heure de l'entretien archéologique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Avant la conquête de la Gaule celtique par les Romains, l'oppidum de Coran dominait l'actuelle Auvergne par sa taille et son influence. Aujourd'hui, ce véritable laboratoire de recherche à ciel ouvert, fouillé à intervalles réguliers par les archéologues, nous en apprend plus sur la vie et les pratiques du peuple de Vercingétorix. Une campagne de fouilles menée à l'été 2024 a mis en évidence pour la première fois en Europe la présence d'un atelier monétaire à Coran. Cette grande et belle première nous en apprend non seulement plus sur la façon qu'avaient les Arvernes de battre leur monnaie, mais nous éclaire également sur toute une dimension politique, sociologique et économique de la culture arverne. Bonjour Mathieu Pou.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur d'archéologie à l'Université Lyon 2. Vous menez des travaux de recherche sur le site de Coran depuis 2001 et vous avez co-dirigé avec Thomas Cerizet l'édition du livre « L'oppidum fortifié de Coran » paru en 2023 aux éditions Mergoal. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour nous décrire ce site de Coran que vous connaissez comme votre poche, puisque je disais, vous le fouillez depuis 2001. On va parler bien sûr de cette campagne que vous avez conduite cet été et qui a mené à cette très très belle découverte d'un atelier monétaire, une première, je le rappelle, en Europe. Mais avant cela, on va être obligé de planter le décor de Coran pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de passer pas loin de Clermont-Ferrand, au sud de Clermont-Ferrand, et de voir ce site-là. Déjà, est-ce que vous pourriez nous le décrire, nous décrire sa topographie, sa géographie, et nous expliquer en quoi, finalement, c'est un site, pour l'époque gauloise, assez exceptionnel?
Oui, alors c'est un site que je connais effectivement comme ma poche, mais il est un peu plus vaste, puisque c'est un plateau volcanique de 70 hectares, qui est localisé à environ 15 km au sud-est de Clermont-Ferrand. Un plateau volcanique de 3 millions d'années, comme il y en a tant dans la région de Clermont-Ferrand. Et c'est un site qui a une particularité, c'est qu'il domine le cours de l'Allier, qui est une voie de communication majeure, il y a 2000 ans, entre le sud et le nord de la Gaule. Et donc le site de Coran verrouille le passage sur ce cours d'eau. Il est naturellement fortifié, défendu par des falaises, et on y trouve de l'eau en permanence. Et c'est la raison pour laquelle ce site a été occupé à différentes époques, du néolithique jusqu'à l'époque romaine.
On va parler bien sûr de ces différentes périodes d'occupation du site de Coran. Il y a quelque chose qu'il faut expliquer aussi, Mathieu Pou, c'est que ce site de Coran, il est proche de deux autres sites qu'on connaît bien par leur nom, Gergovie, Gondole. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette coexistence de trois sites d'envergure pour le peuple arverne?
Alors ce sont des sites d'importance effectivement très riches du point de vue archéologique. Deux d'entre eux ont coexisté à l'époque de la guerre des Gaules, au moment de la bataille de Gergovie, de 52 avant notre ère. Le site de Gergovie, lui, est un petit peu plus tardif puisqu'il a accueilli la bataille de 52, mais il va surtout se développer après la conquête romaine, à partir des années 40-30 avant notre ère. Mais c'est une énigme pour les archéologues que d'expliquer la coexistence de sites aussi importants à 6 ou 7 kilomètres de distance. Et précisément, l'avancée des fouilles sur les trois sites permet aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair quant à l'organisation de ce territoire. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est qu'il y a un site de hauteur, le site de Coran, qui concentre les monuments publics. C'est le siège de l'aristocratie arverne, donc c'est un petit peu l'acropole d'une ville qui s'étendait probablement sur plusieurs kilomètres au bord de l'Allier, et dont Gondole, l'oppidum de Gondole, semble constituer en quelque sorte le port commercial et artisanal, là où on déchargeait en particulier des milliers d'amphores, ces amphores à vin importés d'Italie qu'on retrouve en très grand nombre sur tous les sites du secteur.
On va se concentrer bien sûr sur ce site-là, Coran. Un premier élément intéressant, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le fait qu'on a retrouvé des traces d'occupation à plusieurs époques différentes. Et il y a finalement comme une superposition d'agglomérations à Coran. Alors si on devait, jusqu'à la période gauloise, décrire sommairement ces différentes périodes d'occupation, quand est-ce que ça a été occupé, Coran? Et qu'est-ce qu'on y a trouvé avant la période gauloise?
L'intérêt du site, c'est qu'on y trouve pas moins de 5 agglomérations superposées. Alors, est-ce qu'on peut parler de villes pour les plus anciennes? Dès le néolithique moyen, c'est-à-dire au 4e millénaire avant notre ère, on a déjà une agglomération fortifiée avec un enclos qui s'étend sur plusieurs hectares, qui a livré notamment de très nombreuses haches polies, plus de 250 à ce jour, donc qui est déjà le siège d'une population privilégiée. Ensuite, on a différentes occupations, dont une très importante à la fin de l'âge du bronze, au 9e, 10e siècle avant notre ère. Celle-ci fait 60 hectares. C'est une véritable ville, en tout cas une grande agglomération, l'une des toutes premières connues sur le territoire français. Et puis ensuite, on a cet oppidum identifié à la capitale des Arvernes au 2e et 1er siècle avant notre ère, la ville de Vercingétorix pour simplifier, qui va être abandonnée au moment de la guerre des Gaules, mais très vite va renaître sous la forme d'une petite ville d'époque romaine de 20 ou 30 hectares qui va perdurer jusqu'au 2e siècle de notre ère. Donc c'est plusieurs millénaires d'occupation qui se succèdent sur une stratigraphie, une succession de couches très mince. 50 cm, 1 mètre de stratigraphie au maximum, mais toutes ces occupations, ces agglomérations superposées, il faut les démêler, un petit peu comme un jeu de Mikado, et c'est tout le travail qui est réalisé par nos équipes depuis une vingtaine d'années sur le site.
Alors on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur la période d'occupation arverne, qui a laissé le plus de vestiges. Je dis le mot arverne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce peuple arverne? À quoi, finalement, tient la richesse et le pouvoir de ce peuple gaulois?
Les arvernes, ce sont un des 60 peuples gaulois qui constituaient la Gaule à l'époque de César, l'un des plus importants, l'un des poids lourds géopolitiques de l'époque. Ils ont une particularité, c'est qu'ils occupent ce secteur du Massif central, qui est un axe de communication majeur. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont en contact avec les populations du Sud, grecs, romains. Et très tôt, ce sont des populations qui vont intégrer toute une série de modes de vie, de modes de fonctionnement, qu'on ne trouve pas forcément dans le nord de la Gaule. Donc c'est un peuple qui est déjà très évolué, on va dire, dont les structures sociales, par exemple, sont déjà très développées à l'époque de la conquête romaine.
C'est intéressant parce qu'on ne se fait pas forcément cette idée d'un peuple qui habite dans le Massif central à l'époque gauloise, d'avoir des interactions, ou qui a en tout cas des porosités culturelles avec la culture grecque, avec la culture romaine.
Ce sont les échanges commerciaux qui favorisent ces contacts. L'Auvergne est un territoire très riche, très fertile, avec sa terre volcanique, cendreuse. D'une part, on y trouve des minerais précieux, de l'argent notamment. Et précisément, ce commerce à longue distance qui se met en place au IIe siècle avant notre ère, eh bien, les arvernes vont en bénéficier considérablement. Ils vont en tirer une richesse tout à fait importante. Et c'est ce qui explique probablement la richesse de ces sites archéologiques qu'on trouve dans le bassin de Clermont-Ferrand.
Alors, Coran, justement, tout à l'heure, vous en parliez, vous disiez Gondole est une espèce de faubourg, de vastes faubourgs pour Coran, et Coran est une espèce d'acropole où résiderait finalement l'élite des arvernes de cette région. Quel type d'aristocratie on trouvait à Coran?
La plus haute aristocratie. On ne peut pas mettre des noms sur les gens qui habitaient dans ce centre-ville, mais la découverte d'un très grand nombre de pièces d'armement, notamment des centaines, des bijoux en métaux précieux, en argent, en or, d'un très grand nombre de monnaies, des milliers de monnaies, montre qu'on a affaire vraiment au sommet de la classe sociale des arvernes à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que la fouille permet, sur une surface assez vaste, de voir, d'appréhender à la fois les lieux de vie de ces aristocrates, mais aussi leur quotidien, la vie publique, notamment la vie religieuse, la vie sociale, la vie politique. C'est tout l'intérêt de cette fouille.
Alors, on parle de fouilles et de méthodes de fouilles. C'est toujours intéressant de parler des méthodes que vous pratiquez, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes selon les sites. Vous pratiquez une méthode de fouilles qui se rapproche de l'archéologie préventive. À quoi ça correspond déjà, cette méthode-là? Et pourquoi c'est une méthode particulièrement adaptée au site de Coran?
Moi et toute une génération de collègues qui ont commencé à fouiller des sites gaulois au début des années 2000, effectivement, on a pris les choses un petit peu à rebours de ce qui était fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que ces villes gauloises, on les appréhendait jusqu'à présent à partir de leurs remparts. Et donc, on a beaucoup accordé une importance à l'enveloppe des villes, monumentale, très spectaculaire, mais on en connaissait peu le contenu. Et donc, la méthode qui a été adoptée à Coran, dès 2001, c'est de fouiller sur d'assez vastes surfaces, plusieurs centaines de mètres carrés, certaines années, plusieurs milliers de mètres carrés, et ça permet justement de voir les choses en grand et d'appréhender un centre-ville en plan. C'est quelque chose qui avait été fait pour les villes grecques et romaines depuis très longtemps, mais qui, curieusement pour les villes gauloises, n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et ça nous a permis justement d'appréhender tout le centre-ville dans sa plénitude, avec ses monuments publics, ses quartiers d'habitat, ses quartiers d'artisanat. Et l'articulation de ces différents éléments nous permet d'en dire beaucoup plus sur le mode de fonctionnement d'une ville gauloise.
Surtout que les villes gauloises, c'est pas très facile à comprendre, puisque vous le dites souvent, ce sont un peu comme des villes fantômes en termes de matériaux de construction. On a parfois des lacunes, des manques.
Le problème de ces villes gauloises, c'est qu'elles sont construites en matériaux périssables, du bois, de la terre, et ce sont des matériaux qui disparaissent évidemment, qui retournent à la terre, contrairement aux villes grecques ou aux villes romaines qui livrent des monuments en pierre très spectaculaires et qui sont connus depuis longtemps. Donc c'est tout un travail d'identification, de fouilles, d'analyse, de trous, de cavités, des trous de poteaux, des tranchées creusées dans le sol, des fossés, des fosses, etc., qui nous permet, grâce à l'informatique notamment, de reconstituer les bâtiments. Mais c'est un travail vraiment de révélation de choses qui sont complètement invisibles sur le terrain. Les visiteurs qui visitent nos fouilles sont souvent un petit peu déconcertés parce qu'on n'y trouve que des trous, c'est un vaste gruyère.
Si on doit faire, après avoir présenté le site géographique de Coran, une description dans les grandes lignes de l'organisation urbaine de cet oppidum, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on trouvait comme grande structure urbaine à Coran?
Comme toutes les villes antiques, la ville de Corinthe s'organisait autour d'un centre monumental, un centre urbain. Elle est centrée autour d'un grand sanctuaire qu'on a commencé à fouiller entre 2001 et 2005, un sanctuaire monumental de 50 mètres de côté, avec des colonnades qui l'entouraient, des colonnades en bois à la façon des sanctuaires grecs et romains. À côté de ce sanctuaire, on trouve une sorte de petit théâtre en bois, assez curieux, c'était vraiment une première, on l'a découvert en 2011, et ce théâtre en bois va être remplacé à l'époque romaine par un petit théâtre en pierre, et il est identifié non pas à un théâtre où on donnait des tragédies ou des comédies, mais à un hémicycle d'assemblée. Et en fait, ça correspond à ce que César qualifie de Sénat chez les Gaulois, des lieux d'assemblée politique. Face au sanctuaire et à ce lieu d'assemblée, on a une grande place de 5000 mètres carrés, et tout autour des quartiers d'habitat, avec des grandes maisons assez monumentales, des ateliers, des boutiques, des lieux de vente. On a trouvé une sorte de taverne gauloise, une grande cave de 20 mètres de long, creusée dans le rocher, qui recelait pas moins de 5 tonnes de tessons d'amphores et des amphores complètes. Donc c'est justement l'articulation de tous ces éléments qui nous permet de comprendre le mode de fonctionnement politique, économique, social d'une ville gauloise.
Là, on voit progressivement qu'en décrivant de plus en plus en détail ce qu'on trouve à Corinthe, ce site prend vie. Est-ce qu'on peut dire que Corinthe était véritablement la capitale des Arvernes?
La question des capitales à l'époque gauloise, elle est difficile à résoudre. Elle a du sens. Il existait des chefs-lieux, au moins à l'échelle d'une région, si ce n'est d'un peuple tout entier. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on retrouve à Corinthe, on ne le retrouve pas ailleurs, dans un rayon d'environ 50, voire 100 kilomètres. Et ce sont des sites qui sont connus ailleurs. Bibracte pour les Éduins, le Titelberg au Luxembourg, chef-lieu des Trévires. Et de ce point de vue-là, Corinthe présente exactement les mêmes caractéristiques que ces autres sites. Et c'est ce qui nous permet d'affirmer, notamment avec la présence de plusieurs milliers de monnaie, c'est le site le plus riche en monnaie aujourd'hui en France, qu'il s'agit bien du chef-lieu des Arvernes à la fin de l'âge du fer.
Alors vous parlez de monnaie, il y a plus de 100 000 objets en métal aussi à Corinthe qui ont été retrouvés au fil des différentes campagnes de fouilles. Si on arrive, Mathieu Pou, à la dernière campagne de fouilles en date qui s'est tenue cet été 2024, on a eu tout d'abord, avant de venir au clou du spectacle, à cet atelier monétaire et finalement à ce que ça nous donne comme information particulièrement précieuse sur l'organisation politique, sociale, économique des Arvernes, vous avez trouvé des petits objets, assez modestes peut-être par leur taille, mais que je trouve particulièrement parlants pour comprendre aussi des réseaux d'échanges et des structures finalement sociales. Alors, vous avez trouvé des petits, par exemple, des petites boules de pigments bleus qui viennent d'Égypte. Là, à nouveau, on est face à tout un monde déjà mondialisé dans cette Gaule de Corinthe.
Ah, tout à fait. Aucun de ces objets n'est insignifiant. Chaque nouvelle campagne de fouilles ouverte sur le site, c'est une pièce de puzzle supplémentaire qui nous permet de mieux comprendre son fonctionnement. Et ces petites boulettes de bleu égyptien, qui ne sont pas complètement nouvelles sur le site, elles sont intéressantes, on les a retrouvées en grand nombre. On sait qu'elles sont importées de Méditerranée. Il n'est pas tout à fait clair aujourd'hui si elles ont été produites en Italie ou en Égypte. En tout cas, elles étaient encore importées en masse au début de l'époque romaine sur les bateaux d'Égypte. Et ces boulettes de bleu égyptien servaient à colorer des objets. On en ignore la nature. Ça pouvait être des peintures murales, par exemple, ou éventuellement de l'émail pour décorer les objets. Et donc, c'est effectivement un témoignage avec ces tonnes d'amphores qu'on trouve pratiquement à chaque campagne de fouilles, qui témoigne effectivement de réseaux d'échanges à grande échelle et un commerce tout à fait massif. Ce n'est pas simplement quelques objets qui circulent, mais on a vraiment des circuits commerciaux qui se sont mis en place à cette époque-là et qui engendraient des contacts économiques, mais aussi culturels, tout à fait étroits avec le monde grec et le monde romain.
Vous parlez de ce bleu d'Égypte comme d'une potentielle peinture pour des bâtiments. Est-ce qu'on a retrouvé des traces d'enduit qui étaient imprégnées de ce bleu d'Égypte?
Alors, à Corinthe, on a des traces de peinture sur des enduits en terre, mais qui sont plutôt de couleur rouge pour l'instant. Peut-être qu'un jour, les fouilles mettront au jour des fragments de peinture bleue. Par contre, ce sont des peintures qui ont été découvertes ailleurs, sur d'autres sites, en Auvergne, au nord de Clermont-Ferrand, encore récemment, ou encore dans le Loiret. Et donc, on sait que ces enduits gaulois, qui sont pratiquement inconnus, puisque les murs en terre ont disparu, eh bien, portaient des décors tout à fait somptueux, dont on ne connaît pratiquement rien, malheureusement.
Vous avez trouvé d'autres petits objets que je trouve très beaux, un pendentif en bronze notamment, serti d'un petit galet de roche qui serait du quartz. Alors, à quoi ressemble ce petit pendentif? Il y en a d'autres qui ont été découverts?
De la quartzite, plus précisément. C'est une petite pierre blanche, brillante. Et effectivement, c'est le quatrième découvert sur le site. On en a trouvé d'autres, à Amboise, par exemple, en Touraine. Et ces petits pendentifs sont intéressants parce qu'ils étaient probablement portés par les chevaux plutôt que par les hommes. Ce sont des petits pendentifs de harnachement. Et en fait, on en a retrouvé un dans les années 1990 qui est en forme de lanterne. Et on on peut émettre l'hypothèse que la quartzite qui est enchâssée dans le petit pendentif cage, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien symbolise la lumière, tout simplement. Et ça fait partie des petits objets sympathiques qu'on ne retrouve que sur les sites d'Oppida, les grands sites urbains de l'époque, qui nous renseignent sur la qualité de l'artisanat de l'époque.
Et aussi sur peut-être voilà, un ornement qui traduisait un statut social, un statut éventuellement politique, une appartenance en tout cas à une couche sociale plus élevée.
Alors, cette couche sociale, elle est connue par le texte de César, puisqu'on a retrouvé beaucoup de pièces de harnachement et d'épées en fer qui étaient portées par des cavaliers, des éperons également, des cottes de mailles. Et cet équipement, c'est celui des cavaliers, mais plutôt des chefs de cavalerie, ceux que César appelle des chevaliers, des équites, qui ont à peu près le même statut que les chevaliers romains. Et donc, c'est un des indices qui nous permet de dire que le site était occupé par une aristocratie de haut rang.
On en vient à présent, Mathieu Poux, à cette grande découverte de cet été, une première inédite en Europe, la découverte d'un atelier monétaire de l'époque gauloise. Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qui vous a permis de dire on est face à un atelier monétaire ? Une découverte que vous n'avez pas du tout annoncée tout de suite, vous avez attendu un petit peu. Alors pourquoi avoir attendu ?
Alors on a attendu parce que un atelier monétaire, ça implique la présence d'un grand nombre de monnaies, de métaux, parfois précieux. Et malheureusement, le site de Coran, comme beaucoup de sites de cette époque, est victime de pillages aux détecteurs à métaux. La détection dite de loisir reste autorisée en France, en tout cas les appareils restent en vente. Et malheureusement, beaucoup de sites archéologiques sont victimes de cette activité de pillage. Donc on a attendu évidemment le nettoyage de la fouille intégrale et le rebouchage de la fouille avant d'en parler.
Alors qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a mis la puce à l'oreille et puis qui vous a fait finalement vous dire on tient enfin un atelier monétaire à Coran.
L'existence d'ateliers monétaires dans les villes gauloises de la fin de l'âge du fer n'est pas un scoop en soi. On les soupçonne depuis longtemps sur la base de découvertes, notamment de ces coins monétaires, ces estampilles qui servaient à frapper les monnaies à l'époque, qui sont en bronze à l'époque gauloise. Et donc on savait à Coran, par la découverte d'au moins trois coin monétaire, qu'il y avait un atelier quelque part dans ce centre-ville. En 2010, on avait fouillé une fosse qui avait livré des petites pastilles en bronze encore attachées en chapelet, qu'on appelle des flancs monétaires. Ce sont des monnaies avant la frappe. Avant la découpe et avant la frappe.
Vous étiez déjà sur la piste.
On était sur la piste et c'était pas très loin. Et donc la fouille de cette année, on l'a ouverte juste à côté de cette fosse. Et la fouille a totalement confirmé ce qu'on attendait. Elle a apporté vraiment bien plus ce qu'on en attendait. La première, c'est de pouvoir fouiller un atelier en centre urbain, dans un centre urbain de la fin de l'âge du fer, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été possible jusqu'à présent. C'est un peu comme la bataille navale, hein, quand on fouille sur un site gaulois, il faut avoir des indices assez probants. Et en fait, la fouille a mis au jour un grand bâtiment d'une quinzaine de mètres de côté, porté par des puissants poteaux de bois. Les sols ont été en grande partie râpés par les charrues, par les travaux de labour. Mais ce qu'on a retrouvé, c'est des fosses artisanales dans l'emprise de ce bâtiment qui ont livré beaucoup de déchets liés à la métallurgie du bronze. Des gouttes de bronze, des scories de bronze, des petits flancs, donc d'autres petites pastilles de bronze non frappées, mais surtout des pastilles de bronze qui avaient été frappées à moitié. C'est-à-dire qu'on en avait frappé une face et puis l'autre était lisse, donc on l'a rejetée ou la frappe n'était pas centrée. Donc on a retrouvé plusieurs flancs de ce type. On a retrouvé des essais de coins monétaires sur des petites plaques en plomb. On a retrouvé un possible coin monétaire qui s'ajoute aux trois autres coins déjà trouvés dans le secteur. Et en fait, l'intérêt de la fouille, c'est de pouvoir restituer toute la chaîne opératoire de la production monétaire en place. L'étude de ces éléments, qui ne fait que commencer, la fouille s'est achevée il y a une dizaine de jours, va nous donner beaucoup d'informations sur le travail de l'artisan monétaire. On a retrouvé aussi des petites enclumes en fer qui servaient à découper les monnaies, probablement. Et surtout, l'intérêt de la fouille, c'est de pouvoir identifier, et ça c'est une première, effectivement, les monnaies qui ont été frappées, puisque c'est ratés de frappe, ce qu'on appelle des ratés de frappe, ils portent une effigie. Donc ça nous permet d'identifier les monnaies qui ont été frappées dans cet atelier.
Alors la beauté de la chose de la radio, c'est toujours de décrire un peu les éléments visuels qui sont devant nous. Vous êtes venu aujourd'hui avec des exemplaires d'objets que vous avez trouvés dans cet atelier monétaire à Coran. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous tenez dans les mains, que vous venez de sortir de petits sachets de plastique et que vous avez découvert cet été ?
Nous avons ici, par exemple, un chapelet, justement, de flancs monétaires non frappés. Ils sont encore attachés.
Alors, je le prends.
En bronze. Ils sont tout petits.
C'est quand même assez émouvant de se dire que tout ça a traversé les âges et que ça se retrouve dans un studio à France Culture, en bronze, voilà. Et donc ça ressemble à une espèce d'épi de blé en bronze avec voilà un chapelet, non, tout simplement.
C'est un chapelet, ouais, ouais, de flanc monétaire. Ouais. Et puis ici, l'un des coins monétaires qui avait été trouvé plus anciennement en prospection dans le même champ, qui a servi à frapper un type de pièce qu'on connaît bien sur le site.
Et donc la fonction de ce coin monétaire. Alors là, d'accord, on a l'inscription et donc c'est comme un sceau finalement.
C'est exactement, c'est comme un sceau. Alors celui-ci, ce qu'on voit dessus, c'est en fait un flanc qui est resté collé dessus. Raison pour laquelle le coin s'est cassé peut-être et qu'il a été rejeté. Et puis on a trouvé également, ce qui est intéressant, des essais de coins sur des petites plaquettes en plomb. Mm-hmm. Alors on a une plaquette en plomb avec une effigie monétaire dessus.
L'effigie monétaire qui représente du coup
quoi ? Un petit renard.
Un petit renard.
Ça, alors c'est là, une pièce qu'on connaît très bien sur le site, puisque ces pièces au renard, on en a retrouvé plusieurs centaines sur le site, elles sont très particulières, elles n'ont circulé pratiquement que dans l'emprise de l'oppidum, autour du centre-ville. On ne les trouve presque pas ailleurs. Et ces pièces au renard, elles sont intéressantes parce qu'elles renvoient au nom d'un chef arverne, d'un roi arverne plutôt, qui est mentionné par un auteur grec, Poséidonios d'Apamée, au IIe siècle avant notre ère, qui nous décrit un roi en campagne électorale. Le roi Luerne, et ce roi donc distribue des pièces de monnaie à la volée du haut de son char. Il organise des grands banquets électoraux au cours desquels son électorat était invité à festoyer. Et il se trouve que Luerne en gaulois, Luernos, c'est le renard. Mmh. Ça signifie, ça a survécu dans le breton Louarn. Et à l'entrée du sanctuaire, on a retrouvé également des crânes de renard, des crânes de loup, des crânes de chien, ce qui n'est pas du tout ordinaire. Et donc l'hypothèse avait germé déjà au début des années 2000 qu'on pouvait avoir affaire à un sanctuaire politique, dynastique, qui avait été construit et animé à la gloire de cette lignée de rois arvernes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'atelier monétaire se trouve juste en face du sanctuaire, de l'autre côté de la place. Et donc, identifier le lieu de frappe de ces pièces au renard, c'était déjà un résultat. Mais il y en a trois autres types.
Alors, quels autres types d'effigies on trouve?
Il y a des monnaies qu'on appelle des monnaies cheval-cheval, qui portent un petit cheval sur chaque face. Et elles aussi sont toutes petites et n'ont circulé que sur l'oppidum. Des monnaies plus récentes qui portent une légende en latin. Et ces légendes, c'est Atkanaonos, qui est un nom gaulois qui veut dire jeune chiot ou proche de ses chiens. Donc ça renvoie aussi là encore à l'image des carnassiers. Et puis une monnaie encore plus curieuse qui porte un échassier, une grue, probablement un échassier aquatique. Et c'est intéressant parce que ces animaux, on peut leur donner une signification symbolique, évidemment, religieuse.
C'est pas du tout des animaux qui sont habituellement reliés au pouvoir et à une forme de royauté chez les Gaulois, ces animaux.
Pas du tout. Habituellement, on trouve plutôt des chevaux, des sangliers, des loups. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces motifs sont vraiment uniques, ils sont propres à Coran. Et donc l'atelier a frappé à la fois des monnaies au renard et à l'échassier, pour s'intéresser uniquement à ces deux types de pièces. Et quand on fait un détour par la mythologie grecque, eh bien le renard et l'échassier, ils ont une symbolique particulière. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le renard et la cigogne. Et en fait, c'est une fable d'Ésope, une fable antique, qui montre que la cigogne est plus rusée que le renard. Mmh. Et en fait, le renard, comme l'échassier, dans l'Antiquité, il symbolise la ruse, l'habileté rhétorique. Et c'est une hypothèse qui a été avancée par les collègues hellénistes, que le renard, comme l'échassier, sont un symbole de l'habileté du discours, l'habileté rhétorique. Et on est à un moment où la cité arverne bascule d'une royauté absolue. Le roi Luerne n'est plus un roi de droit divin puisqu'il est en campagne électorale et on peut imaginer qu'il s'est reconnu comme un personnage connu dans le monde grec antique, Pythagore de Mytilène, comme un habile discoureur. Et on a d'autres monnaies gauloises qui symbolisent la parole, qui sort de la bouche des chefs gaulois. Ce sont des volutes, généralement, qui sortent de la bouche. Et l'une de ces monnaies représente deux échassiers qui sortent de la bouche. Donc on peut penser que le renard comme l'échassier sont le symbole de cette nouvelle société où il ne s'agit plus simplement de s'imposer par les armes, par un droit régalien, divin, mais s'imposer par le discours les assemblées.
Par la rhétorique.
Le fait que cet atelier ait été retrouvé en face de l'hémicycle d'assemblée, ça a un sens, d'autant plus que dans l'hémicycle d'assemblée, on a retrouvé des monnaies, et 5 petites monnaies au renard ont été mutilées, on les a burinées. Elles ont été burinées avec un ciseau, et on peut penser que c'est un acte de défiance politique, c'est-à-dire qu'on rejette l'image du renard, peut-être la lignée dynastique de Luerne, par cet acte qui a évidemment une signification politique dans le cadre de l'hémicycle d'assemblée.
Donc là, on comprend bien que grâce à la découverte d'un atelier monétaire, de ces monnaies avec des effigies particulières, on peut remonter et émettre des hypothèses sur toute une structuration politique de Coran et toute une organisation politique qui est en train de changer à l'époque précédant la guerre des Gaules.
L'intérêt de la fouille, c'est que ces hypothèses historiques, on peut adhérer ou non à cette grille de lecture, elles trouvent confirmation dans les découvertes du sol. C'est-à-dire que l'archéologie, elle est vraiment entre les sciences humaines et les sciences dures, et la poursuite des fouilles permet justement de confirmer, de valider ou d'invalider parfois des hypothèses qu'on peut émettre au départ, et c'est tout l'intérêt de la poursuite de ces chantiers chaque année, c'est qu'ils permettent vraiment de compléter cet immense puzzle et d'en dire beaucoup plus sur ces sociétés gauloises. On ne s'arrête pas simplement à l'alimentation, au mode de vie, à l'architecture, mais ça permet d'en dire beaucoup plus sur le mode de fonctionnement de ces sociétés.
Et de comprendre que ça n'était pas qu'un peuple de rustres qui se tapait dessus. Ça, c'est bon, l'image est quand même maintenant bien éculée, mais ça nous permet en tout cas d'avoir un portrait beaucoup plus fin de leur organisation et de l'évolution politique de ce peuple-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi des monnaies de la région de l'actuelle Bourges, des monnaies qui sont frappées par les biturgies. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter, comment peut-on interpréter la présence de ce type de monnaie qui viennent de loin?
Alors, des monnaies biturgiques, on en trouve à Coran, on en trouve ailleurs. Donc, la région de Bourges, effectivement, c'était aussi un peuple très important, les biturgiques cubes, dont le chef-lieu, la capitale, était à Avaricum, l'actuelle Bourges. Ce qui est plus surprenant à Coran, c'est qu'on trouve des ratés de fabrication de ces monnaies biturgiques. Et celle-là nous pose problème, parce qu'on ne sait pas les interpréter pour l'instant. On a même un coin monétaire biturgique qui a été découvert dans les années 1980, en prospection.
Plusieurs Alors, Coran hypothèses... pourrait être une banque des Gaules, de la même façon qu'il y avait une banque de France. Est-ce qu'on frappait monnaie pour d'autres peuple gaulois?
Ce serait aller beaucoup trop vite. On peut imaginer des liens entre les familles aristocratiques. Et puis, il y a une autre hypothèse qu'on peut également retenir, qui a été proposée dès les années 1980 par les numismates, c'est que Bourges est le siège d'une grande bataille qui précède de quelques mois celle de Gergovie. Et on sait qu'à la suite de la défaite subie par les biturgiques et Vercingétorix, eh bien, les guerriers se rapatrient en Auvergne. Ils se replient en Auvergne juste avant la bataille de Gergovie. Et l'hypothèse qui avait été proposée à l'époque, c'était que ce coin monétaire biturgique pourrait être celui de chef biturgiques qui auraient frappé monnaie à Coran juste avant la bataille.
Ils auraient apporté avec eux finalement dans leur retraite. Bon, toutes ces belles découvertes, elles sont réalisées par en bonne partie grâce à des équipes de jeunes chercheurs, d'étudiants qui sont bénévoles. Ça, c'est important de le rappeler, Mathieu Pouce. C'est la continuité de ces fouilles doit se faire pour aller encore plus loin dans l'amélioration de notre portrait de cette société arverne. Voilà, il faut leur rendre hommage.
C'est une équipe tout à fait extraordinaire, et celle qui a travaillé sur le site cet été en particulier. Vous l'avez dit, Coran, c'est un laboratoire de recherche. Ces fouilles programmées qui sont autorisées et financées par le ministère de la Culture et les collectivités, qui ne coûtent pas très cher en réalité, puisque ce sont des chantiers bénévoles, ce sont des laboratoires, mais sont aussi des terrains de formation pour les étudiants. Et moi, j'ai été tout à fait épaté cet été par le professionnalisme des étudiants, par la propreté de leur travail, l'efficacité de leur travail. Ils sont débutants quand ils arrivent, et ils repartent avec un métier en main. Et ce métier, qui est une passion au départ, je ne doute pas qu'ils pourront l'exercer plus tard, à la fin de leurs études, après un master, voire une thèse d'archéologie. Et il faut leur rendre hommage. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ces fouilles se poursuivent dans les années à venir, parce que c'est un terrain de formation qui est unique, qui est porté par quelques collègues en France, et qu'il ne faut surtout pas tarir, qu'il ne faut surtout pas interrompre, parce que c'est précieux pour notre histoire, pour la formation des étudiants. Et puis c'est aussi un très bel exemple de voir ces jeunes travailler sur le chantier l'été, par tous les temps, dans des conditions parfois difficiles, pendant leurs vacances. Et je tiens vraiment à leur rendre hommage.
On leur rend hommage, et sans trop en dévoiler, les fouilles à venir, vous allez vous pencher sur quelle partie de Coran? Qu'est-ce que vous allez chercher?
On va poursuivre la fouille de ce secteur, puis c'est un programme de fouille qui s'étend sur 3 ans, qui durera jusqu'à 2026. Et donc, on va poursuivre l'exploration de ce secteur, puisqu'on a des quartiers très riches, avec des artisanats particuliers, peut-être, pourquoi pas, d'autres ateliers monétaires, d'autres types de monnaies frappées dans ce secteur-là. On a une agglomération romaine qui se développe sur les ruines de l'Oppidum, et qui se situe également dans ce secteur-là. Et donc, les fouilles à venir apporteront, à n'en pas douter, d'autres surprises, d'autres scoops, que je me ferai un plaisir de partager.
Eh bien, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à vous, Mathieu Pou, de nous avoir emmenés à Coran, à la rencontre des Arvernes, dont on comprend que leur organisation politique, culturelle, sociale, religieuse était très très riche. Merci beaucoup. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Vincent Charpentier, Eve Etienne, Sandrine Chaperon, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Noé Chaban aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.